Europe 1, Sébastien Guyot.
Nous sommes de retour en direct avec les grandes voix d'Europe 1, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney. Nous partons pour les États-Unis, J-4, avant la passation de pouvoir sans précédent entre Biden et Trump. Trump et Biden sans précédent d'abord parce que Washington ressemble à Fort Knox hein, en vue du 20 janvier. Sans précédent aussi parce que c'est la première fois qu'un président en exercice se voit visé par deux procédures d'impeachment. Sans précédent enfin, ou presque, c'est arrivé 5 fois en plus de 200 ans, parce que le président sortant n'assistera pas à la cérémonie. D'abord, écoutez ça, les grandes voix. Vous connaissez ? Hail to the Chief, l'hymne présidentiel américain. La tradition veut que le 20 janvier, on joue l'hymne à 2 reprises. En live, ça sera Lady Gaga, hein, mercredi prochain. Alors, à 2 reprises, pourquoi ? Pour les deux présidents. Cette fois, il n'y aura pas les deux présidents. Alors, est-ce qu'on va la jouer à 2 reprises ? On verra. En tout cas, Gérard Carrérou, c'est une cérémonie totalement inédite à laquelle le monde entier va assister mercredi à 12h précises.
Ben oui, c'est une cérémonie triste probablement qui s'annonce parce qu'il va y avoir l'armée. On les a vus. On a vu les troupes dormir sans matelas.
Oui, j'ai trouvé qu'on les traitait assez mal.
GI, mais enfin bon, ils ont fait connaissance avec d'autres terrains de guerre plus difficiles quand même. Je pense à l'Afghanistan ou à d'autres terrains. Donc il y a ça. Ça va être un peu triste, ça va être un peu différent. Mais enfin, c'est pas important. Maintenant, bon,
c'est pas important, sauf qu'il y a quand même 20 000 réservistes de la garde nationale qui sont mobilisés au cas où il y a des violences.
C'est important pour l'ordre public. Mais je veux dire, bon, les dés sont jetés. La messe est dite, Trump va partir. Ce qui compte maintenant pour moi, il y a 3 choses. Je les énumère simplement, je ne les commente
Allez-y.
Pas. D'abord, ce que va faire Biden, le programme Biden, est-ce que c'est un programme capable de redonner un élan et de réconcilier ? Extrêmement difficile vu la séparation en deux du pays et les antagonismes. Deuxième problème, y aura-t-il après une époque, dans les années 50, un maccartisme de droite, y aura-t-il, anticommuniste, y aura-t-il dans l'Amérique des 2 prochaines années un maccartisme de gauche où on évacuera des campus, des universités et des entreprises, tous ceux qui étaient pour Trump.
Et troisièmement,
est-ce qu'on va vivre un monde dans lequel le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les réseaux sociaux, s'est installé comme le premier pouvoir,
alors, les réseaux sociaux
prend des décisions qui sociaux, sont de nature politique.
On va y revenir dans un instant. D'abord, sur le premier point que vous abordez, Gérard. Catherine Ney, le fait que Biden puisse ou non exercer son pouvoir, cette procédure d'impeachment qui est en cours, est-ce que ce n'est pas finalement à double tranchant pour les démocrates ? Parce qu'il ne va pas pouvoir effectuer tout ce qu'il a envie de faire dès le début de son mandat.
Non, mais ça change, je dirais, c'est qu'il était peut-être le seul de tous les candidats démocrates à incarner autant la réconciliation. Parce que c'est quelqu'un de modéré, qui a une réputation d'avoir été toujours un modérateur, quelqu'un qui aime le consensus, qui va le chercher, qui parle à tout le monde au Sénat, à l'Assemblée, enfin... Bon. Et puis, moi je crois aussi que c'est une voix modérée et qui n'incarne pas du tout cette gauche qui était dénoncée par les républicains pour en
Bernie
faire
Sanders,
une gauche révolutionnaire, voilà. Et puis, mais il va connaître des difficultés parce que n'oubliez pas que les républicains, il y a quand même 140 représentants républicains qui n'ont pas refusé de confirmer son élection. Mmh. Donc ça va être difficile parce que sa majorité est courte. Et puis il arrive quand même dans une situation difficile parce qu'aujourd'hui c'est le drame sanitaire. Il y a 3000 morts par jour,
en moyenne,
400 000 au total, c'est-à-dire que plus que toutes les guerres du passé des États-Unis, 400 000.
Michel oui. Cotta, puis Charles Villeneuve.
Je voulais revenir sur la procédure d'impeachment.
Oui.
Pour donner un peu de temps, on a raison sur Biden, tu as raison Catherine, sur Biden qui est le modéré, mais je trouve que la stratégie de deuxième impeachment est plutôt plus gênante pour les démocrates qu'elle ne leur apporte des choses. Parce que c'est très bien, c'est passé au Congrès, c'est parfait.
Mais pour quelle raison ? Parce que ça victimise un peu plus Donald Trump, parce qu'il parle lui-même de chasse aux sorcières.
Ça victimise
absolument. Ou parce que
absolument.
Ça encombre le travail des membres du Congrès.
Trump, au moment où il n'a plus besoin d'être victimisé. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être... il peut encore tirer quelque chose sur l'Iran. J'en sais rien, je ne le crois pas. Mais je trouve que c'est transformer Trump en victime... Alors que quand même, ses électeurs sont en grande majorité pour lui. Donc je pense que cette procédure ne sert à rien et que c'est très bien qu'elle ait été repoussée au Sénat de quelques jours.
À propos de victimisation, oui. Charles Villeneuve, l'impeachment numérique avec le fait que Twitter, Facebook, YouTube, etc., tous les comptes soient fermés pour Donald Trump. Même le président de Twitter a dit que c'était un précédent dangereux.
Oui, non mais... Mais d'abord, moi, je trouve que Michel a raison. Biden, pour développer son programme, n'a pas besoin de prendre le risque que la destitution, l'impeachment, donc cette deuxième procédure contre Trump introduite, parce qu'on risque de parler tous les jours de, de ce problème à la télévision et de Trump. Donc, toute la journée, médiatiquement, ça peut gâcher l'action de Biden, ses propositions, sa politique, son programme. Comme l'a dit tout à l'heure Gérard. Bon. Ensuite, je trouve qu'on néglige totalement, on ne parle que du droit constitutionnel par rapport justement
au droit commun.
À l'impeachment, à cette procédure de destitution. On oublie le droit commun parce qu'il faut savoir que du jour au lendemain, le 20 au soir, le président Trump redeviendra un citoyen ordinaire. Il devra répondre à des plaintes pour agression sexuelle, il y en a 3, pour fraude fiscale, il y en a 4, et le risque d'être convaincu d'incitation au désordre. Et ça, c'est sur le plan pénal. Ça fait déjà beaucoup. Et l'avenir aussi de son business, c'est-à-dire de ses affaires commerciales et immobilières. Et elles sont nombreuses. Donc, c'est là tout le risque aussi de Trump.
Et on sait pas où est-ce qu'il va...
On ne parle que des risques constitutionnels. Les risques, si vous voulez, pénaux, classiques, d'un citoyen ordinaire, sont très nombreux.
À savoir où Donald Trump va aller après le 20 janvier.
Il ne peut pas revenir à New York parce que les New-Yorkais ont fait savoir que s'il revenait dans sa tour, eh bien, il y aurait des manifestations devant chez lui tous les jours. Et New York n'est pas une ville trumpiste. Et puis à Palm Beach, où il a des golfs, et eh bien là aussi, il y a déjà des manifs pour dire qu'il n'est pas... Alors je ne sais pas où il va aller.
Mais a priori, le 20 janvier au matin, il partira pour sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.
Dans ce cas-là, on s'aperçoit que tout le monde va lui découvrir les pires défauts. Comme toujours, ça s'accumule.
Malheur
au
vaincu.
Je lisais, oui, malheur au vaincu.
Malheur
au vaincu. Je lisais que...
Les pires défauts, on en avait déjà pas mal parlé.
Il a passé 223... Pendant ces 4 ans-là, il a passé, dit-on, 223 jours à s'adonner au golf. Où est-ce qu'il s'est adonné au golf ? Dans ses propres golfs. Oui. C'est-à-dire qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'en plus, maintenant, on dit c'est un tricheur. Alors là, je me suis dit, si on commence à le discuter sur le golf, alors jusqu'où on ira ? Il est vraiment... il peut être à la dérive. Il se trouve simplement que les Américains, et qu'une grosse partie des Américains, sont derrière lui.
Une majorité
de
républicains,
en tout
cas. Vous ne
parlez pas de la dictature des GAFA, et moi, j'insiste là-dessus.
Mais c'est le dernier point, ça, que j'ai évoqué, le troisième.
L'impeachment numérique.
Parce qu'effectivement, comme le dit d'ailleurs Dominique Régnier, je vous renvoie à un article, je n'ai pas le temps, du Figaro, où il disait « Sans réaction de notre part, les GAFA m'imposeront une orthodoxie idéologique. C'est ce qui est en train de se passer en Amérique. Si vous voulez la pensée unique au pouvoir, vous n'avez qu'à laisser les GAFA continuer. » Ça, c'est le problème des Américains, vous me direz. Mais c'est aussi le nôtre.
Eux qui détiennent les clés, ce sont des sociétés privées à capitaux américains, et c'est eux qui ferment le robinet ou qui l'ouvrent.
Et ça ferait l'objet d'un débat à part entière, mais on doit poursuivre les grandes voies. On marque une petite pause dans un instant, la dernière partie de ce débat en deux temps. On parlera de la présidentielle en France, cette fois, 2022. C'est dans 16 mois, même pas. La gauche et la droite sont plus que jamais dispersées. Le duel Macron-Le Pen est-il inéluctable ? On analyse tout ça avec les grandes voies d'Europe 1 dans un instant.